Alors, un culte un peu modifié, on va apporter la prédication tout de suite, et ensuite il y aura le programme préparé, il y aura un chant encore avec l'offrande, et ensuite il y aura le programme préparé par les enfants pour cette fête de Noël 2023. Alors, le texte, toujours de l'Apocalypse, puisqu'on a le thème dominant de Noël, c'est Noël vu de l'Apocalypse. On a déjà vu beaucoup de plusieurs passages qui parlent de Jésus, hein, et de ce qu'il est, de sa venue, de ses promesses. Et on a vu ça du point de vue de l'Apocalypse. Et aujourd'hui, donc, un passage plus simple peut-être, c'est une lettre, la lettre adressée à l'église de Laodicée. Alors, on ne va pas la commenter en détail, mais on va prendre surtout le verset 20. Mais je vais quand même lire les versets donc de la lettre complète, hein, auquel on fera référence quand même, versets 14 à 22 d'Apocalypse 3. Apocalypse 3, versets 14 à 22, mais surtout le verset 20. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable honneur, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant, si seulement tu étais froid ou bouillant, si seulement tu te décidais. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, tu n'arrives pas à te décider, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, pauvre, misérable, aveugle et nu. Alors je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la bonté de la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et je te conseille d'acheter aussi un collier pour oindre tes yeux, afin que tu puisses voir. Enfin, on a l'impression d'ajouter. Moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Et donc, du zèle, reprends-toi. Mais voici que je me tiens à ta porte, à la porte, et que je frappe. Si quelqu'un, si tu entends donc ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez toi, chez lui, chez toi. Je souperai avec toi, je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et je me suis assis sur le trône avec mon Père. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Béni sois-tu pour ta parole qui est toujours valable, toujours actuelle, qui nous parle toujours. Amen. Alors, ce matin, donc, d'abord, on va commencer par un tableau. Voilà, pas Simeon qui bouge. Alors j'espère qu'on le voit, on le voit un peu, voilà. C'est donc un tableau qui se trouve dans la cathédrale protestante anglicane de Saint-Paul à Londres. Donc c'est cathédrale protestante anglicane et ils ont un tableau qu'ils ont mis là depuis 1908. Voilà, c'est pas mal. Ouais. Alors il y a d'autres versions, mais c'est la version la plus connue. Et qui a été peinte par William Holman Hunt, hein, qui a été peintre, ses dates c'est 1827-1910, voilà. Et donc il a vu ce tableau encadré là, et dans la cathédrale anglicane de Londres. Alors qu'est-ce qu'il représente ? Eh bien ce tableau en tout cas continue de faire passer son message, et son message c'est le sauveur du monde est vivant, et il habite. Il veut habiter le cœur de ceux qu'il invite à entrer dans leur vie. Je vais expliquer ça. L'œuvre a été inspirée par la parole du Christ, que j'ai soulignée tout à l'heure, le verset 20 du chapitre 3 d'Apocalypse. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si un homme, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je viendrai à lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Alors, dans la peinture, on voit Jésus, lumière du monde, dans un monde de ténèbres, qui veut apporter la lumière dans les vies. On voit Jésus couronné d'épines et frappant à une porte ménagée dans le haut mur d'un jardin. Donc, un jardin fermé, et la porte est fermée. Alors Jésus frappe à la porte. Voilà, on voit bien le geste. Hein. Voilà, vous l'entendez. Et vous avez le son et l'image. Et il frappe à la porte. Et celle-ci, cette porte, représente donc le cœur humain qui ne peut être ouvert de l'extérieur, hein, mais seulement de l'intérieur. Et donc le Seigneur attend qu'on lui ouvre pour entrer. Hein. Il n'y a pas de poignée sur la porte à l'extérieur. Alors, il y a un verger hein, de pommiers tout autour, et les pommes sont tombées. Hein, et donc, ça pourrait symboliser la chute de l'homme, hein, le péché originel. Hein. L'homme s'est séparé de son Créateur, il a voulu vivre sa vie à lui, sans Dieu, et indépendant de tout. Et puis, il y a des clous roués, hein, rouillés, et il y a des charnières recouvertes de lierre sur cette porte. On ne le voit peut-être pas très bien là, hein. Mais sur la peinture, c'est bien souligné. Il y a des clous rouillés, des charnières recouvertes de lierre. Ça indique que la porte n'a jamais été ouverte jusqu'à présent. Vous avez déjà vu ça peut-être dans vos, si vous vous baladez dans certains endroits, eh bien, on voit des portes hein, qui n'ont pas été ouvertes depuis longtemps. Mais là, elle n'a jamais été ouverte. Mais il y a une étoile du matin, paraît-il. Alors, on la voit. Hein. Il y a une étoile du matin dans le ciel. Qui paraît, Jésus est appelé l'étoile du matin hein, dans l'Apocalypse. Et l'étoile du matin qui apparaît près du Christ annonce l'aube d'un nouveau jour possible. Donc une nouvelle aventure avec Dieu est possible, un nouveau jour est possible, si on ouvre. Alors au moment du vernissage, quelqu'un a fait remarquer à l'artiste, mais vous avez oublié la poignée de la porte. Hein. Oh, oh. Mais non, qui dit, je n'ai pas oublié, hein, la poignée de la porte est à l'intérieur. C'est celui qui est derrière la porte, c'est à lui qu'il appartient d'ouvrir, s'il le veut. Hein. Jusqu'à là, on comprend tout. Hein. Et donc, c'est une peinture on visite la cathédrale de Saint-Paul pour voir la peinture aussi, hein, surtout. Alors, ce verset est surtout utilisé aujourd'hui pour deux choses. Tout d'abord, il est utilisé comme une invitation adressée à des non-chrétiens. Vous avez peut-être entendu ce genre de prédication. Et c'est vrai, hein, Dieu cherche aujourd'hui à devenir le sauveur hein, et le seigneur hein, de chaque homme, de chaque femme, de chaque personne, grande ou petite, hein, jeune ou moins jeune. Hein. L'appel s'adresse à tous. Hein, le Seigneur tape à la porte. Hein. Jésus attend qu'on se tourne vers lui hein, pour lui ouvrir et qu'on fasse donc un acte de confiance en lui, de repentance. Et il promet de venir dans notre vie, hein, de vivre une communion profonde avec nous, de changer notre vie hein, de l'intérieur, la nouvelle naissance. Donc nous avons l'assurance que le Christ ne refusera jamais d'abord sa grâce, hein, la grâce de nous sauver, et puis toutes ses grâces à celui qui l'accueille. Hein. Il ne refuse jamais ses grâces, et en particulier la grâce du salut, à celui qui l'accueille dans la repentance et dans la foi. Jésus avait déjà exprimé la même chose en d'autres termes dans l'évangile de Jean, Jean 6, 37. « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. J'entrerai à quiconque m'ouvre la porte pour appliquer cette parole-là. Donc c'est une fête. Et l'évangile parle de fête. Hein, de fête, de joie immense. Quand quelqu'un entend la voix de Jésus-Christ, il lui ouvre la porte. Le Seigneur entre alors et crée une communion d'une qualité sans égale. Et cette communion est décrite par l'expression un peu bizarre ici, « Je mangerai avec lui et lui avec moi ». Alors ça paraît normal, quand on mange avec quelqu'un, l'autre mange avec nous. C'est pas forcé. Là, ça exprime bien la communion réciproque, la communion profonde. Donc ça décrit la proximité qui se crée déjà ici-bas entre Jésus-Christ et chacun de nous. Mais cette communion n'est jamais hein, parfaite tant qu'on est dans ce monde. Cette communion sera parfaite. Elle aura en tout cas une dimension accomplie lors du grand repas, quand nous serons conviés dans la maison du Père hein, et que nous aurons une communion parfaite avec Dieu par Jésus-Christ. Mais Dieu, mais Jésus, on va dire, le chef de l'Église, destine cette invitation avant tout à des chrétiens. Si on regarde le contexte, hein, c'est surtout à des chrétiens qu'il s'adresse. Je me tiens à la porte, je relis le verset. Il se tient à la porte de l'église de Laodicée et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je mangerai avec lui et lui avec moi. Donc dans le contexte, il s'adresse aux chrétiens de l'église de Laodicée. C'est une église d'Asie mineure, on va dire, dans la Turquie actuelle. Et il se tient à la porte de l'église de Laodicée, c'est-à-dire qu'il est mis à la porte. Il est donc en dehors de l'église de Laodicée, il est mis à la porte de cette église. Oh, ben oui, c'est possible. En tout cas, l'image nous parle. Qu'est-ce qui fait que Jésus peut rester en dehors d'une vie chrétienne, d'une vie d'église ? Alors nous ne sommes sans doute pas tous concernés par les mêmes dangers que cette église de Laodicée il y a 2000 ans. Mais quand même, nous sommes tous quand même en danger de nous laisser attiédir. À un moment ou à un autre de notre vie chrétienne, dans l'une ou l'autre circonstance de la vie qui est la nôtre aujourd'hui, eh bien à cause de notre faiblesse, à cause de notre orgueil, à cause de plein de choses. Alors la question qu'on peut se poser ici est celle de nos tiédeurs. Parce qu'il faut bien aussi nous laisser interpeller par cette lettre à l'église de Laodicée, même si elle est dure. Qu'est-ce qu'elle nous dit aujourd'hui à nous ? Qu'est-ce qui peut nous attiédir, nous rendre tièdes, nous, aujourd'hui ? Alors bien sûr, on peut s'éloigner de la source. Si la source est chaude, plus on s'éloigne de la source. On n'a qu'à imaginer en Islande les sources qui coulent des geysers. Eh bien, plus on s'éloigne, eh bien, le monde est tellement froid là-bas, eh bien, la source, l'eau devient très vite tiède puis froide. Donc, on s'est peut-être éloigné de la source de Jésus, la source de vie. Mais ce qui nous a tiédit, c'est le sentiment d'autosuffisance aussi, dont parle cette lettre, de supériorité. Tant au niveau matériel que spirituel, je suis riche, j'ai besoin de rien. Et on n'a même plus besoin de Dieu. On fonctionne en rond, comme ça, en autarcie. Et on ne s'est même pas rendu compte. Alors, on voit là que tout ce qui nous pousse à nous confier en nos propres forces et capacités, en méprisant le Seigneur, en méprisant aussi les plus faibles. Et puis, donc, ce qui nous a été dit, c'est aussi le compromis, l'acceptation dans nos vies de situations qui nous empêchent de vivre pleinement notre engagement pour le Seigneur et les uns envers les autres, parce que les deux sont liés. Qu'est-ce qui correspond à ça dans ma vie ? Les compromis. Puis, à nos cœurs mélangés, à notre manque d'amour pour le Seigneur. Puis, à notre laisser-aller. La légèreté avec laquelle nous acceptons dans nos vies des attitudes, des comportements dont nous savons pourtant pertinemment qu'ils ne sont pas à la gloire du Seigneur. Ça, c'est chacun. C'est différent pour chacun. Et puis, et surtout, donc, notre orgueil, notre manque d'humilité pour reconnaître notre misère et notre besoin fondamental, même en tant que chrétien, notre besoin fondamental de devoir toujours à nouveau nous tourner vers Dieu pour recevoir de lui la vraie vie. Donc l'église de Laodicée était tellement loin d'être prête à régner avec le Christ que seule une correction pouvait l'amener à se repentir et à lui éviter le pire, d'être vomi de sa bouche. C'est un avertissement. C'est pour que ça n'arrive pas que le Seigneur l'avertit. Et le message principal que le Seigneur adresse aux chrétiens est le suivant. « Moi, je reprends et je corrige ceux que j'aime. » Verset 19. « Moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime, tous. » Donc nous devons nous attendre à être corrigés et nous en réjouir. Dieu a taillé le programme de formation à la mesure de chacun de nous. Son projet pour nous est grandiose. Il veut nous faire partager son trône et régner sur l'univers avec lui. C'est ce qu'il dit à la fin de la lettre. Alors il n'est pas surprenant que nous ayons besoin d'être formés et éduqués pour cette tâche. Le Seigneur veut que nous acceptions les corrections comme des modules dans son école de formation. Ceux qui sont formés, il y a des modules depuis longtemps. Et bien, c'est pareil. C'est pourquoi acceptons donc ces réprimandes, ces corrections, avec joie, avec soumission. Jésus frappe à la porte de notre vie avec le bâton de la correction, on pourrait dire. ne nous plaignons pas, hein, reconnaissons cela comme un coup frappé paternellement à la porte de notre cœur pour nous réveiller. Si nous acceptons sa correction, si nous cédons à son coup frappé à la porte, nous nourrirons notre âme des leçons qu'il va donner. Et nous serons ainsi prêts à régner avec lui pour jamais. Donc il faut se décider, ouvrir ou pas ouvrir. C'est un peu ça le problème des gens de la Odyssée. Ils étaient tièdes, et donc il était particulièrement important de faire appel à la responsabilité de chaque membre de l'Église de la Odyssée pour les amener à dire ce qu'ils voulaient au fond d'eux et pour les amener à prendre position, hein, claire, puisque c'était ce qui leur manquait le plus, de prendre position, hein, et rester dans l'entre-deux. Hein. Et donc, on voit que Jésus adresse un appel clair. « Je me tiens à la porte et je frappe. » Alors là, soit on ouvre, soit on ouvre pas. Hein. Il n'y a pas 36 solutions. Hein. Et donc, l'appel est individuel. Il s'adresse à toute l'Église, mais il ne dit pas « Ô Église, hein, entendez ma voix et ouvrez la porte. » Non, il dit « Si quelqu'un entend, hein, chacun est amené à une position claire. » L'Église est composée de membres. Hein. Et l'Église ne peut pas faire ouvrir les portes pour ses membres. C'est à chacun de nous d'ouvrir, hein, la porte et de la laisser ouverte au Christ, hein, et d'entendre ce qu'il a à nous dire. Hein. Et le repas donc a du sens dans ce sens. Hein. C'est vraiment un signe de réconciliation, d'accueil, d'accord mutuel retrouvé, de communion pleine et entière retrouvée. Alors on peut conclure en disant que ce passage nous parle de la richesse de la grâce de Dieu, hein, de la patience du Christ. Hein, je me tiens à la porte, il est là, il frappe. Hein, il ne part pas, il reste là pour frapper. Hein, il se tient à l'extérieur devant des portes fermées et pourtant il ne se lâche pas de continuer à frapper. Hein, quelle patience, hein, quelle miséricorde, hein. L'amour et la grâce de Dieu font en sorte que le Seigneur ne se détourne pas. Il se tient tout près de la porte fermée pour frapper, pour appeler encore. Et c'est cet appel que nous sommes appelés à entendre en tant qu'humains, hein, et en tant que chrétiens aussi. Et donc en cette période de Noël, que notre souhait c'est que tout homme, toute femme, tout humain puisse dire à celui qui nous aime, eh bien, viens. Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus, et viens dans ma vie, hein. Je veux t'accueillir dans ma vie. Hein. Le Seigneur ne veut pas être accueilli dans une crèche, hein, sur un joli petit tas de paille, hein, comme on met des petites figurines, hein. Il veut être accueilli. Et il ne veut pas seulement être accueilli dans le monde, hein, en général, il veut être accueilli dans ma vie. Hein, c'est ça le véritable Noël, hein, être accueilli dans nos cœurs, dans la vie, hein, de chaque personne et de chaque enfant de Dieu aussi. Et donc que tout chrétien, pas seulement ceux qui n'ont pas encore fait ce pas, que ceux qui n'ont pas encore fait ce pas puissent le faire aujourd'hui, accueillir Jésus dans leur vie. Mais que tout chrétien qui a déjà accueilli Jésus dans sa vie puisse renouer sa relation avec Jésus-Christ pendant cette période de Noël. Cette relation avait déjà commencé, mais elle a pu s'attiédir. Hein, que nous puissions, poussés par l'amour miséricordieux de Dieu, par sa patience, hein, par son amour sans limite, que nous puissions ouvrir notre cœur à Jésus. Amen.